Bientôt 19h18 sur Inter. Je vous laisse en compagnie de Marion Lourd qui attend vos appels pour le téléphone sonne jusqu'à 20h.
Merci et bonne soirée Xavier Demagny. Oui, le téléphone sonne 01 45 24 7000. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accompagner sur France Inter ce soir.
France Inter. Marion Lourd. Le téléphone sonne.
Au début, il y avait les brocantes et les garages, les dépôts-ventes et les vides-greniers. Puis soudain, Internet est arrivé et avec lui, le Bon Coin, un site pour ceux qui voulaient se faire un peu d'argent ou dénicher des occasions avec toujours le risque du défaut plus ou moins caché. Puis il y en a eu d'autres, Vinted pour les vêtements, Momox pour les livres et la start-up Back Market pour l'électronique avec son slogan qui vaudrait pour tous « New is old ». Traduction, le neuf s'est dépassé. Et ce n'est sans doute pas faux, on voit que même les plus grands et les plus installés s'y mettent, comme Ikea, comme Darty, comme La Redoute, Leclerc, Système U ou Decathlon. Aujourd'hui, tous proposent en rayon ou en ligne des produits d'occasion, électroménagers, meubles, déco, vêtements, vélos. La seconde main marchait à 7 milliards d'euros l'an dernier. Oh, et pour ceux qui se méfieraient, il y a une autre option, la location longue durée, un achat en plusieurs fois avec une sorte de loyer. Bref, l'achat comptant d'un produit neuf à la papa, c'est peut-être terminé. Et vous alors, est-ce que vous achetez d'occasion? Est-ce que vous louez? Avez-vous besoin de conseils sur le sujet? Ou tiens, voulez-vous nous en donner? Question posée ce soir au téléphone sonne 01 45 24 7000. Bienvenue sur France Inter, c'est parti.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Et pour parler avec nous de ces nouvelles façons de consommer, ce soir, deux invités à distance. Pascale Hébel, économiste et directrice du département consommation du CREDOC, centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Dominique Schelcher, patron de Système U, des magasins qui justement se lancent aussi sur le créneau de l'occasion. Bonsoir.
Bonsoir Marion Lourd.
Alors Pascale Hébel, peut-être pour commencer, le marché de l'occasion, c'est un marché en expansion?
Oui, tout à fait. On a vraiment eu une accélération là pendant les périodes de confinement, notamment parce qu'il y a eu un boom des achats sur le e-commerce et il y a des nouveaux acteurs comme Vinted qui ont vraiment développé ce marché de l'occasion. C'est un marché qui s'est mis en place dans les années 2008, dans la dernière crise économique. Et on a petit à petit une plus grande proportion de Français qui achètent. Et c'est surtout le profil des acheteurs qui a beaucoup bougé. Dans les années 2007-2008, on avait plutôt des profils de population modeste qui achetaient d'occasion pour des raisons économiques. Les jeunes achetaient déjà à cette époque-là. Et puis, aujourd'hui, ceux qui achètent le plus d'occasions, ce sont plutôt les très diplômés. Et donc, des gens qui le font non pas pour des raisons de coût, mais pour des raisons éthiques, hein, et qui veulent influencer le cours des choses, et notamment essayer de consommer mieux pour réduire les impacts écologiques.
Oui, j'allais vous demander, qu'est-ce qui pousse ce développement? Effectivement, raison économique ou raison idéologique ou conviction, en tout cas?
Oui, c'est vraiment par conviction que notamment les plus jeunes veulent aller vers des mouvements comme le zéro déchet. Ils veulent absolument n'acheter que de l'occasion. On voit des jeunes qui achètent beaucoup de vêtements. C'est à cet âge-là qu'on achète le plus. C'est avant 30 ans qu'on achète le plus de pièces. Et ils se donnent comme pari de ne jamais acheter de neuf. Et donc, c'est des courants qui se mettent en place, les autres, les uns copient les autres. Et finalement, les jeunes le font, les parents accompagnent. Et donc, on a vraiment une dynamique qui se crée. Et c'est un peu pour cette raison que finalement, les grandes marques s'y mettent, parce que ce sont des mouvements qui sont nés entre particuliers. Au démarrage, c'était essentiellement sur des plateformes. La première, ça a plutôt été eBay avant Le Bon Coin. Et c'était des particuliers qui, pour certains, se faisaient de l'argent en vendant, d'autres achetaient, et puis ça s'est mis en place de telle façon que les grands ont voulu aussi être sur ce marché, notamment sur les marchés qui baissent. Le marché du vêtement, c'est un marché qui est en diminution, et donc pour continuer à exister, eh bien, il faut se mettre sur le marché d'occasion.
Et est-ce qu'il y a eu un effet Covid? En tout cas, est-ce que vous, au CREDOC, vous avez observé un effet Covid sur ce marché de l'occasion?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une envolée d'achats sur Internet. Et puis, cette plateforme, Vinted, qui existait presque pas avant 2020 et qui a profité du déconfinement pour se développer. Et ça a été un succès fulgurant. Et donc cette plateforme s'est bien développée pendant les confinements.
Alors il y a les spécialistes de l'occasion et puis il y a aussi les grandes enseignes qui existent déjà et qui se lancent sur l'occasion comme Système U. Dominique Schelcher, quand est-ce que vous vous êtes lancé vous sur ce marché de l'occasion ?
Nous nous sommes lancés à la rentrée 2020, juste après le premier confinement et l'été de l'année dernière, parce qu'effectivement, pendant cette période, beaucoup de gens ont réfléchi et ont manifesté l'envie de consommer différemment plus que jamais. S'il y avait des tendances préexistantes depuis longtemps, mais je dirais il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées. Et donc, l'arrivée de l'occasion, je dirais, dans la grande distribution traditionnelle, prouve que cette démarche se démocratise complètement. Et je confirme ce que vient de dire Pascal Hébel, c'est-à-dire qu'on a deux types d'acheteurs. On a ceux qui achètent ces produits-là, soit du textile, soit ce qu'on va appeler du bazar, pour défendre leur pouvoir d'achat, parce que ces produits coûtent moins cher. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ceux qui cherchent à réduire l'empreinte écologique de leur consommation en achetant un produit d'occasion, en recyclant, en évitant de jeter, de gaspiller. Donc, c'est une tendance qui s'installe de manière de plus en plus forte.
Est-ce qu'il y a une limite à ça, ou est-ce que finalement ça peut concerner tous vos clients ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment, ce marché qui est en forte augmentation, effectivement, hein, depuis le début des années 2000, il va s'arrêter de croître, ou est-ce que sky is the limit, on va aller jusqu'à concerner tous les clients avec ce genre d'achat ?
Il en concerne de plus en plus, parce que je pense, si vous voulez, avec d'ailleurs ce qu'on vit encore ces dernières semaines, hein, toutes les images que l'on voit, ces incendies, ces températures extrêmes, ces inondations, ça fait profondément réfléchir les gens. Ils ont envie de modifier leur consommation. Ils nous le disent d'ailleurs, hein, ils disent qu'ils veulent consommer autrement, plus durable, avec cette idée d'un moindre impact. Et donc, je pense que ça va continuer à se développer. Et d'ailleurs, depuis qu'on l'a lancé à l'automne l'année dernière, en fait, les premiers magasins ne cessent de développer l'offre, ne cessent de développer de plus en plus de clients. Donc, je pense que c'est une tendance qui démarre, dans la grande distribution, mais qui a un long avenir devant elle.
Et si vous le faites, vous, Système U, c'est que vous y trouvez forcément aussi votre compte. Alors, au-delà des motivations éventuellement environnementales et des motivations en termes d'image, pourquoi est-ce que vous allez rajouter des produits d'occasion dans vos rayons ?
Mais parce que véritablement, il y a une demande de la clientèle, notamment dans le textile. Vous savez, nous sommes une coopérative de commerçants indépendants, beaucoup installés dans des communes rurales, beaucoup dans des communes de moins de 5000 habitants. Dans ces endroits-là, ce que vous citiez au départ dans votre introduction, se vivait depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on achetait du textile depuis bien une dizaine d'années, douzaine d'années, sur les marchés aux puces, voilà. Et donc, ce mode de vie qui existait déjà arrive maintenant dans nos magasins, dans ces mêmes endroits, avec des gens qui ont cette habitude. Donc on ne fait que répondre d'un côté à la demande de la clientèle, et qui a plaisir à consommer comme ça et qui a pris de nouvelles habitudes. Et d'un autre côté, nous, on y trouve un intérêt aussi par rapport au respect de l'environnement, à cette lutte pour la préservation du climat. Hein. Ce sont des boucles locales. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure comment ça marche. Ce sont les clients locaux qui apportent leurs produits, qu'on estime, etc.
Qu'ils n'ont pas forcément acheté chez vous.
Qui n'ont pas forcément acheté chez nous, absolument, mais on les reprend et on les recommercialise à d'autres clients dans l'environnement local. Donc c'est une boucle d'économie locale,
avec une marge forcément
pour tout le monde.
Avec une marge qui est de combien ?
Oui, avec une marge, mais je dirais, on est dans le commerce, il y a toujours une
bien
marge
sûr.
Sur un produit, parce que, par exemple, ces activités que nous créons pour ce principe de l'occasion, nous créons des emplois, ça suppose du temps de travail, etc. Donc ça suppose aussi rémunération, et il est donc tout à fait normal qu'il y ait une marge.
Oui, bien sûr, non, je ne conteste pas le fait qu'il puisse y avoir une marge, mais est-ce que vous rachetez à 1 et vous revendez à 5, ou on est dans quel ordre de grandeur ?
Alors, tout dépend des produits, et nos spécialistes qui regardent ça, en fait, observent sur Internet les prix du marché, et donc d'un produit à l'autre, tout dépend du prix du marché. Il n'y a pas, vous voyez, une marge de référence, c'est plutôt le prix du marché qui va faire le prix qu'on va mettre en œuvre.
C'est pas votre métier à l'origine de reconditionner des choses et de les revendre, donc comment vous faites ?
Alors, nous formons de nouvelles équipes et ce sont des nouveaux métiers. Et en fait, le commerce ne cesse de se renouveler. Notre sujet à nous, commerçants, c'est quoi ? C'est de nous adapter en permanence aux nouvelles attentes des consommateurs, aux nouvelles tendances. Nous sommes en permanence à l'écoute de la société, comme le sont les sociologues de l'autre côté. Mais nous, voilà, on le transforme dans nos magasins en permanence. Et,
donc, c'est vous directement, ça. C'est les salariés de Système U.
Ah, tout à fait, ce sont les salariés du Système U.
Dans tous les magasins français.
Alors, pour l'instant, c'est une activité qui démarre. Donc, il y a aujourd'hui une série de magasins, mais ce nombre de magasins ne cesse de progresser. Et à terme, je pense qu'une majorité de magasins proposera soit du textile, soit du non-alimentaire, comme des livres, des jeux vidéo. Et ce qui marche le mieux, c'est surtout le petit électroménager, une cafetière, un grille-pain. Ce sont ces produits-là, dans cet univers-là, qui marchent le mieux.
Et si je suis consommateur, est-ce que je peux les identifier vraiment ? C'est-à-dire, je veux acheter un grille-pain qui est d'occasion, ou au contraire qui n'est pas d'occasion, je vais bien voir la différence dans les rayons.
Alors nous vendons tous ces produits dans des rayons à part pour justement bien les identifier, pour bien les présenter aux clients, qu'il n'y ait pas de doute et que les clients sachent absolument qu'ils achètent un produit d'occasion. Vous voyez, donc ils ne sont pas mélangés avec les produits neufs en fait. C'est pour une meilleure pédagogie, une meilleure clarté.
Arnaud nous appelle du Gard. Bonsoir Arnaud.
Oui, bonsoir.
Alors, merci d'avoir appelé France Inter.
Mais de rien. Mais alors, je suis dans une, même pas colère, je suis effaré, quoi. C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis brocanteur depuis des années, de génération en génération, et je vais quand même avoir des gens de supermarchés qui, après avoir découvert le bio, maintenant vont avoir découvert la brocante. Mais c'est vraiment que des commerciaux, c'est le monde d'avance. Ces gens, faut les éradiquer, quoi. Il faut qu'on revienne au monde de demain, c'est-à-dire que les gens aillent chiner, que les gens aillent voir leurs producteurs pour acheter du bio, et qu'on arrête d'aller dans ces supermarchés où on se fout de la gueule de tout le monde. Moi, ça fait des années que j'ai des collègues qui vendent des vêtements. Moi, je vends des petits meubles, je vends des bibelots. Ça fait très longtemps. Nous, on est des écolos depuis trois générations dans ma famille.
Alors Arnaud, je vous entends, vous vendez des petits meubles et des bibelots, mais vous ne vendez pas de tout non plus.
Ah ben, on vend de tout dans une brocante. Allez chiner. Dans les brocantes, il y a tout. Mais ça va du vêtement, en passant par les petits meubles, en passant par l'électroménager. Il y a des sociétés, des entreprises qui font ça depuis très longtemps. Je pense que c'est des associations comme Envie. Ça fait des années que ça existe.
Qui reconditionnent l'électroménager, hein, notamment les lave-vaisselle et ce genre de choses comme ça. Le lave-linge.
Pour encore venir nous expliquer qu'ils sont des gens de bonne conscience, mais pas du tout. Ce sont que des voyous qui veulent faire de l'argent. Point. Et le système U comme tout le monde.
On entend.
Mais que les gens aillent, mais vraiment qu'ils prennent le temps d'aller chiner, d'aller regarder autour d'eux. Mais ces gens-là, les supermarchés, mais bannissez-les.
Mais attendez, Arnaud, les brocantes, il n'y en a pas tous les jours quand même.
Ah, mais vous rigolez, il y a les magasins. Il y a des brocantes. Moi, j'ai des collègues qui sont ouverts du lundi au samedi. Mais il n'y a pas que des brocantes sur les marchés. Il y a aussi des magasins, il y a des antiquaires, il y a plein de choses. Nous sommes un métier très riche.
Donc on
de plein de choses et de tout budget. Il ne faut pas croire que chez un antiquaire, il n'y a que des tableaux à 100 000 euros. Ce n'est pas vrai. On peut trouver un petit meuble pour sa fille ou son fils qui est étudiant pour la rentrée à 30 euros.
Bon, on entend votre colère, Arnaud. Vous avez l'impression qu'on vient marcher sur vos plates-bandes.
Mais ce n'est pas qu'on vient marcher, c'est qu'ils veulent marcher sur toutes les plates-bandes. Sur le bio, sur la brocante, sur le machin. Les grandes surfaces veulent marcher pour tout le monde. Voilà, c'est ça le problème.
Bon, ça c'est
sur tout le monde.
C'est votre opinion, Arnaud. En tout cas, je vais me tourner vers Pascal et Belle. Est-ce qu'effectivement, là, on découvre en fait quelque chose qui existait déjà, ou est-ce que le phénomène a réellement pris de l'ampleur tout de même ?
Alors vraiment, le phénomène a pris de l'ampleur et il s'est vraiment développé grâce à Internet. C'est vraiment parce qu'en effet, il y a toujours eu des dépôts ventes, il y a toujours eu des brocantes, mais en fait, Internet a cette faculté, c'est de mettre en contact un nombre important, 50 millions de Français, qui vont pouvoir donner un objet ou vendre un objet qui est rare et qui est difficile à trouver. C'est-à-dire que ça met en contact beaucoup plus de monde que quand c'est un magasin physique. Donc c'est bien grâce à Internet qu'on a pu, d'ailleurs ça a pu commencer sur des collectionneurs, sur des échanges de produits très rares, mais finalement, je pense que tout le monde peut accompagner le mouvement. Alors c'est vrai que sur le bio, c'est bien grâce à la grande distribution qu'on a pu avoir un boom très très fort du bio. On est un des premiers pays consommateurs de bio et c'est tant mieux pour la planète. Donc le fait qu'en effet la grande distribution qui qui couvre 90% des Français achètent dans ces magasins-là, évidemment, ça élargit et ça démocratise. Tout le monde n'habite pas dans un petit village où il y a une brocante, il y a des zones où on n'a pas le même type de magasin. Donc moi, je trouve qu'au contraire, c'est une très bonne chose de voir que c'est la grande distribution va aussi sur ce marché et ça va permettre finalement d'amplifier le mouvement. Aujourd'hui, plus de la moitié des Français ont acheté un bien d'occasion cette année, là, en 2021. Et bien, grâce à une diffusion plus forte dans plus de magasins, ça permettra à des catégories de population qui n'y ont pas pensé de le faire, en fait. Et c'est vrai que c'est quand même une population particulière qui le fait. Ce sont avant tout les plus jeunes, parce qu'ils sont nés dans cette envie de changer les choses. Et puis, les plus âgés le font moins. Et ce sont les plus diplômés qui vont aller vers des brocantes, par exemple, ou du marché d'occasion. Donc, pourquoi pas donner envie à toute la population.
L'un n'est pas exclusif de l'autre, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Ah oui, tout à fait. Ça a toujours été comme ça dans la consommation. C'est-à-dire que ça fait pas de la concurrence, au contraire, ça fait grossir le marché.
Dominique Schellcher, vous avez entendu la colère d'Arnaud qui a l'air de vous dire que vous ne découvrez rien du tout et que vous récupérez en quelque sorte le marché.
Moi, je lui réponds, vive la concurrence. Évidemment, nous, on ne veut être exclusif de rien. On fait notre travail au quotidien. On essaie de répondre aux attentes des clients. Et comme ça vient d'être dit, ce qu'on cherche à faire, c'est donner accès sous nos toits au plus grand nombre. Il y a peut-être dans des endroits des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas accès à des brocantes et qui aujourd'hui, pour leur pouvoir d'achat, pour une consommation différente, ont plaisir à faire ces achats-là. Je vois chez certains de mes collègues qui pratiquent le service occasion, par exemple, ils ont un grand succès avec les livres d'occasion, les BD, les mangas, qui seraient peut-être des livres que ces gens, auxquels ces gens ne pourraient pas accéder s'ils n'étaient pas à cet endroit-là. Donc voilà, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est simplement de démocratiser. On veut prendre la place, évidemment, de personne. Et on veut simplement faire notre travail.
Puisque Dominique Schellcher parle du livre, Pascal et Belle, il y a quand même façon et façon de vendre de l'occasion. Parce que, par exemple, le spécialiste du livre de l'occasion, qui est Gibert, il a dû fermer ses magasins vitrines à Paris parce que ça marchait plus si bien que ça. Donc, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour que les grandes surfaces ou les grandes enseignes puissent faire de l'occasion d'une façon qui va fonctionner?
Alors c'est vrai que Gibert Jeune, comme d'autres enseignes qui n'ont pas pu prendre le virage d'Internet, sont obligés de fermer parce qu'ils n'ont pas, fait comme la Redoute, ils n'ont pas pris le virage d'être aussi sur Internet. Donc ils ont la concurrence de gros comme Amazon qui fait aussi de l'occasion. Donc en effet, une façon de le faire, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qui est beaucoup développé pendant différents confinements, c'est pour un magasin physique, c'est de faire les deux, c'est de faire du click and collect et d'être à la fois présent en physique, mais aussi sur Internet. Mmh. On a eu un boom, on a multiplié par deux la proportion de petites PME, d'artisans commerçants qui se sont équipés en équipement informatique, et tant mieux. Mais il faut continuer à aller dans ce sens, puisqu'il faut être présent sur la toile, notamment parce que on a eu des confinements, des couvre-feux, et donc moins de temps pour aller dans des magasins physiques. Et donc, pour pouvoir continuer à aller sur tous les marchés, d'ailleurs, c'est impératif. Et sur le marché du livre, c'est ce marché-là, c'est un des marchés sur lequel il y a le plus de ventes d'occasion. Sur l'ensemble des achats d'occasion, un tiers, c'est des meubles et de la décoration, et 12%, ce sont des livres.
Donc, avec parfois des marges jusqu'à de 1 à 8.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai que les consommateurs, ils gagnent aussi, c'est-à-dire qu'ils revendent tout leur stock. Et au lieu de rester chez soi, on est envahi par les objets chez soi. Et pourquoi les laisser dans un coin sans qu'ils soient utilisés? Sur le livre, il y a beaucoup d'autres choses qui se développent, comme le troc. Et donc là, au contraire, c'est gratuit, en fait. On dépose des livres dans tous les villages, dans toutes les villes. On a des endroits où on a ces échanges. Et c'est ça qui, finalement, s'est développé, cette solidarité, ce collaboratif. On a appelé ça au départ de la consommation collaborative, où chacun peut partager avec les autres. Et en plus de tous ces marchés d'occasion, on a de plus en plus de sites où on donne. Donc on a plusieurs façons d'aller dans ce sens, hein. C'est où je loue des objets, où je les donne, où je les vends d'occasion. Et c'est vrai que le succès du Bon Coin, ça fonctionnait parce que il a choisi de faire des échanges locaux. C'est par la localisation que finalement on a pu donner confiance finalement dans ces échanges.
Avant de retourner au standard, justement, vous évoquiez la location, on n'en a pas encore beaucoup parlé pour l'instant. Est-ce que ça aussi c'est un marché en expansion ?
Alors c'est vrai qu'il y a des nouveaux modèles qui se mettent en place, hein. Vous en parliez tout à l'heure en introduction, on a ce qu'on appelle de la longue durée, là c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus marchand puisque derrière c'est un petit peu comme un crédit de long terme, mais oui ça s'est développé, mais ça pèse beaucoup moins, hein, sur des achats de vélos. Aujourd'hui le dernier vélo que les gens ont acheté, s'il y en a près de 40% qui sont achetés d'occasion, la location du vélo est beaucoup moins importante sur le dernier usage de vélo, mais ça s'est un petit peu développé de la même façon aussi avec des sites, hein, comme Ziloc, qui a été un des premiers à proposer des locations entre particuliers.
Brigitte nous appelle de Bretagne. Bonsoir Brigitte.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci. Oui, moi j'appelais par rapport au marketplace. J'avais une
petite... Donc les sites internet, on va peut-être expliquer, les sites internet sur lesquels les grandes enseignes revendent, enfin mettent en contact les vendeurs et les acheteurs pour un certain nombre d'objets. Voilà.
Alors voilà, justement, vous avez dit mettre en contact les vendeurs et les acheteurs. C'est un peu là le problème que pour moi le bât blesse, parce que les vendeurs, en l'occurrence, ce sont donc d'autres enseignes, des mini-enseignes, qui profitent de la marque pour vendre leur produit. Or, les délais d'acheminement, d'expédition, la qualité, etc., elle n'est pas du tout au rendez-vous. Par exemple, la Fnac, ils prennent 8% sur les ventes d'une marketplace, mais c'est pas parce qu'il y a marqué la Fnac que c'est une garantie. Moi, j'ai eu sur la dernière année deux problèmes assez importants avec une marketplace, et j'ai fini par apprendre par un des correspondants de la Fnac avec qui j'étais au téléphone, parce que j'ai dû râler quand même quelques fois pour essayer d'avoir gain de cause, et il m'a dit, le dernier appel qu'on a eu, que cette marketplace du coup avait été supprimée de la Fnac, pour dire que franchement aux auditeurs, faites gaffe aux marketplaces. Il y a une enseigne qui est mise en avant, soit la Fnac, Darty ou autre, mais ça veut pas dire que c'est pareil. C'est juste utiliser le nom de la grosse enseigne pour vendre. Et la grosse enseigne, en l'occurrence, elle se fait une marge, puisqu'on parlait de, vous parliez de marge là tout à l'heure, ben on y revient. Mais enfin, pour moi, c'est un truc qui est absurde, quoi. Je comprends même pas qu'on puisse l'autoriser, parce que c'est la porte ouverte à plein de dérives.
Vous aimeriez qu'il y ait des garanties qui sont liées effectivement à la notoriété de cette enseigne.
Ah mais oui, et puis que ça soit vraiment soit que de l'occasion, soit que, mais que tout soit clair. Parce que justement, j'avais une discussion, si je commençais à dire tout à l'heure, avec une conseillère SFR qui me disait, mais les marketplaces c'est que de l'occasion. J'ai dit non, c'est pas que de l'occasion, c'est aussi du neuf. Et justement, tout se mélange. Au bout d'un moment, on sait plus qui fait quoi. Ça devient vraiment le grand n'importe quoi. Et bon, moi, j'achète, c'est souvent, c'est beaucoup dire, parce que quand j'ai besoin d'un petit quelque chose qui soit pas trop cher, je vais sur le Bon Coin. Et c'est vrai que là, on est tranquille. Quand on voit la personne, on récupère l'objet, ça coûte vraiment pas cher. Et très bien, quoi. Mais les marketplaces, faites gaffe les gens.
On peut avoir aussi des mauvaises surprises sur le Bon Coin, cela dit. Mais merci Brigitte pour votre témoignage. Dominique Schelcher, vous à Système U, vous avez une marketplace aussi ou pas ?
Non, on a décidé de ne pas nous lancer dans une marketplace. Par contre, pour revenir au petit sujet de tout à l'heure, on fait de la location.
Ah, vous aussi.
Évidemment, de la location de véhicules, mais aussi de plus en plus d'objets du quotidien, comme du matériel de bricolage, ou par exemple des grands barbecues pour faire des fêtes, ou du matériel de fête, qui sont des choses que vous n'utilisez que ponctuellement. Et ça a de plus en plus de succès parce que les...
Location ponctuelle ou longue durée ?
Alors ça peut être les deux, ça peut être ponctuel ou longue durée en fonction de votre utilisation. Le plus souvent, elle est très ponctuelle en fait, et beaucoup de gens nous disent, ben non, j'ai pas besoin de faire l'acquisition de ce produit, je vais l'utiliser une fois ou deux fois dans l'année, donc je viendrai le louer chez vous. Et c'est une tendance qui monte également.
Pascal et Belle, la question des marketplaces, effectivement, alors c'est effectivement pas toujours de l'occasion, mais est-ce qu'elles sont régulées, ces marketplaces? Parce que parfois, effectivement, on peut avoir des mauvaises surprises sur des produits qu'on a achetés sur des sites d'enseignes pourtant qui ont pignon sur rue.
Oui, non, il y a pas de, enfin, c'est les mêmes réglementations que sur l'ensemble des ventes. C'est souvent le site, en fait, hein, qui impose sa politique et qui va notamment rembourser les clients quand il y a un défaut de la part du vendeur. Donc c'est selon l'endroit où vous allez. Alors c'est vrai que c'est la notoriété de la Fnac, de Darty, d'Amazon, etc. qui est mise en jeu, et c'est sans doute pour ça qu'ils prennent des marges importantes. Et ce sont eux qui vont réguler finalement ce qu'ils acceptent sur leur site. En fait, c'est simplement que les sites les plus connus attirent le plus de monde. En fait, c'est vrai que quand on est consommateur dans la jungle de tous les sites, il y en a beaucoup. Si chaque marque faisait son propre site, ce serait difficile finalement pour les consommateurs de se repérer, de mettre finalement même son mot de passe, etc. Donc, c'est un agrégateur en fait d'offres. Et c'est finalement pour simplifier les choses et faire que le consommateur soit un petit peu moins perdu. Donc je comprends qu'en effet, il puisse y avoir des choses qui ne soient pas très claires, mais c'est évidemment le consommateur qui doit faire attention aux mentions qui sont notées. Et que le produit soit d'occasion ou pas, c'est normalement écrit, hein, quand vous faites votre achat, vous savez s'il est d'occasion ou si ça, c'est un petit peu des mentions qui doivent être transparente. Si la plateforme fait bien son travail, elle donne bien toutes les informations. Donc c'est là que la protection du consommateur doit être prise en compte. Et il y a quand même des réglementations qui viennent de l'Europe qui permettent notamment de vous faire rembourser. Il y a tout un tas de réglementations qui fait que quand vous achetez un objet, vous avez un délai pour vous rétracter. Et ça s'applique à tous les sites de vente.
Donc a posteriori, effectivement, on peut se faire rembourser. Par contre, il n'y a pas forcément de vérification et de label qualité sur tous les produits qui sont commercialisés sur la marketplace.
Tout à fait, mais vous pouvez renvoyer votre produit. Il y a toujours cette possibilité-là quand vous êtes déçu, quand vous recevez le produit.
Dominique Schelcher, je reviens à l'occasion, sur la question de l'occasion, est-ce qu'on a les mêmes garanties aussi quand on achète un objet d'occasion, chez vous ou ailleurs, que quand on achète un objet neuf? Est-ce qu'on a...
Ah mais absolument, on engage la même garantie à partir du moment où on revend le produit. Le client, s'il a le moindre défaut, peut nous le ramener, nous le réparons. Il n'y a absolument, bien sûr, aucune difficulté. C'est une règle de base de la revente. En vendant le produit, on engage notre garantie, bien sûr, au service du client.
Et donc, au préalable, vous avez vérifié que le mixeur fonctionnait, que le vêtement n'était pas troué, que...
Absolument. Alors, en l'occurrence, pour le vêtement, nous travaillons... Là, c'est quand même compliqué parce que ce sont chez nous les plus gros volumes, les vêtements. Donc là, on travaille avec un partenaire dont c'est le métier de récupérer les vêtements, surtout de les nettoyer et de s'assurer effectivement qu'ils sont en parfait état. Alors ça c'est peut-être dans la phase initiale là de notre développement de cette offre, mais on a les premiers magasins qui commencent à réfléchir pour améliorer cette idée de boucle locale de consommation, de travailler aussi leur textile eux-mêmes en le récupérant auprès des clients, en le faisant nettoyer, en le réparant le cas échéant. Par exemple, voilà. Donc, voilà, il y a peut-être une phase initiale et il y aura peut-être d'autres méthodes de travail demain.
Vous parlez de boucle de consommation, mais est-ce que du coup, ça mange pas aussi sur vos autres ventes? C'est-à-dire, est-ce que les clients vont pas venir acheter des produits d'occasion au détriment des produits neufs que vous commercialisez?
Tout cela se complète. Après, tout dépend des marchés. Pascal Ebel l'a dit sur le textile, c'est de plus en plus difficile ces dernières années. Donc, c'est clairement un marché en décroissance dans nos magasins. La vente de produits d'occasion compense en partie cette décroissance. Vous voyez? Donc, ça se complète. Sur l'électroménager, nous répondons à une autre façon de voir les choses, et notamment à des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Il faut savoir, moi j'ai un chiffre en tête, c'est 35% de nos clients souhaiterait s'impliquer davantage dans une consommation responsable, mais n'en ont pas forcément les moyens. Ben, en leur proposant ces produits-là, qui leur coûtent moins cher à l'achat, moitié moins cher, voire parfois moins que moitié moins cher, eh ben, ils font une économie eux-mêmes, avec un bon produit de qualité quand même, parce que souvent c'est comme neuf finalement, et en même temps, ils font un geste pour l'environnement, donc tout est gagnant.
À l'inverse, Cédric demande sur l'application France Inter, n'est-ce pas une façon pour les grandes enseignes comme Darty ou comme Système par exemple, de faire deux fois du bénéfice sur un même produit, neuf puis occasion?
Entre-temps, il a été utilisé. Et encore une fois, c'est une prestation de service. On a des équipes qui travaillent sur le sujet, on crée des postes, on crée des emplois. Partout où on a ouvert ces boutiques ou ces corners d'occasion, comme on dit, on a recruté, on a mis en place des équipes qu'on a formées. Donc à un moment, il faut bien couvrir les frais de ce service, ce qui suppose une marge. C'est pas forcément choquant qu'il y en ait une au départ. Pour la première commercialisation et une nouvelle marge pour la nouvelle commercialisation parce qu'il y a des nouveaux frais.
Claude nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir.
Vous êtes bien sur France Inter, allez-y.
Oui, j'avais une question par rapport aux déchetteries. Quand on va dans une déchetterie, j'allais dire classique, on dépose les objets usagés et si on voit des objets qui nous intéressent, qu'on pense qu'ils sont réparables, on ne peut pas les récupérer. Mais j'ai vu une émission à la télé où il existait, alors je ne sais plus dans quelle ville, dans quelle région, une déchetterie où était adossée à cette déchetterie une sorte de magasin. Il y avait un employé qui stockait dans ce magasin le matériel qu'il pensait pouvoir intéresser les personnes. Et ensuite, on pouvait venir... dans ce magasin, entrepôt, si vous voulez, récupérer ce que l'on avait besoin. Alors, je ne me souviens pas si c'était moyennant finance ou si c'était gratuit, mais en tout cas, des objets pouvaient resservir comme ça, sans être passés par un transport, sans être passés par un retraitement chez Veolia ou autre. Et ça me semblait intéressant et je voulais savoir si ce genre de déchetterie allait se développer ou si ça allait rester marginal.
Alors Pascal Hébel, peut-être pour répondre à Claude, est-ce qu'effectivement il y a aussi un marché d'occasion qui passe, est-ce que le circuit passe aussi par les déchetteries?
Alors c'est vrai que la législation sur les déchetteries empêche en effet que vous repartiez avec des biens que vous preniez, c'est bien écrit dans l'entrée des déchetteries, c'est le fonctionnement qui a été choisi pour ces dépôts. Ensuite, tous les produits sont, quand on peut, sont recyclés, hein. Ils ne sont pas jetés, donc il faut le savoir. Mais surtout, souvent, les mairies vous disent d'ailleurs que vous pouvez, avant d'aller les déposer à la déchetterie ou avant que le camion vienne les chercher, vous pouvez les déposer devant chez vous et là, les gens viennent se servir. Donc c'est vrai que c'est plutôt comme ça que ça se fait si vous voulez que les gens reprennent vos objets. Il faut plutôt, quand c'est possible, les mettre à disposition ou les donner. Il y a des sites qui existent où vous pouvez donner des choses et les gens viennent les chercher. Donc c'est la législation de la déchetterie qui est comme ça. Donc en effet, vous ne pouvez pas, et sans doute que le magasin que vous décriviez qui était adossé, c'était des objets qui étaient réparés et qui étaient sans doute, il y avait sans doute quelque chose à payer en fait. Hein. Et en effet, sans doute qu'on peut mettre en place des systèmes de recyclerie à partir des objets qui sont déposés dans les déchetteries et qui sont ensuite remis dans le circuit. Et ça, les législations actuelles sur l'économie circulaire vont dans ce sens et il y aura des applications, des réglementations qui vont inciter à ça.
Alors sur l'application France Inter, il y a la question de la gratuité qui est posée aussi. Il y a plusieurs auditeurs qui nous écrivent et qui se demandent un peu que va devenir le don. Est-ce que les gens vont encore continuer à donner alors qu'il y a ce marché de l'occasion qui se développe? Autrement dit, est-ce qu'avant on donnait et maintenant on vend?
Alors moi, ce que j'ai pu constater, ça dépend vraiment du profil des populations. Et donc, là, il y a toute une partie de la population qui a toujours donné et qui continue de donner. Et il y a toujours tout un tas d'associations hein, qui le font, le Secours catholique, le Secours populaire. Et puis, vous avez tous les relais où vous déposez vos vêtements. Donc, il y a toujours la partie du don qui progresse. En fait, ça progresse en même temps que l'occasion. Et c'est plutôt une partie de la population, les gens qui sont les plus riches, en fait, donnent plutôt que de revendre et plutôt que d'acheter d'occasion. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais comme il y a un mouvement global qui est de dire que, et les gens le comprennent, que ce qui est important, c'est l'usage des objets plutôt que la propriété, les trois quarts des Français pensent ça, et ça a progressé, finalement, tout le monde prend conscience qu'il faut remettre dans le circuit. Et donc, on va avoir des sites hein, de plus en plus où vous pouvez dire que vous donnez et vous venez chercher chez vos voisins ce qui est donné.
Donc, ça ne rogne pas sur la part du don, d'après vous?
Non, pas du tout. Oui.
Nous avons un exemple dans nos magasins.
Dominique Schellcher.
Certains de nos magasins, en fait, proposent des boîtes à livres à l'entrée des magasins, donc où les clients peuvent déposer un livre d'occasion et en prendre un en contrepartie. Ces boîtes, souvent, ne désemplissent pas et en même temps, on développe l'activité occasion dans le magasin. Donc oui, je pense que ce sont des actes complètement complémentaires des uns des autres.
On retourne au standard de France Inter, retrouver Élodie. Bonsoir Élodie.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Carcassonne, allez-y.
C'est ça, exactement. Oui, j'avais une question sur les plateformes internet où on peut trouver des objets d'occasion, des articles. En fait, ma question, c'est, donc vous avez parlé d'empreintes écologiques qu'on peut souhaiter réduire en achetant effectivement d'occasion. Moi, ça me pose un problème que je ne sais pas résoudre, c'est que en allant sur internet, je pollue. En achetant quelque chose qui va m'être acheminé en transport, en emballage individuel, le transport, on sait que ça pollue énormément, donc je pollue. Donc, est-ce qu'il y a des études ou est-ce qu'il y a moyen de savoir d'une façon ou d'une autre si finalement acheter d'occasion, ça réduit l'empreinte écologique ou si finalement c'est un statu quo ou même si ça l'augmente?
Alors, on va peut-être commencer par Dominique Schellcher. Est-ce que vous avez calculé le poids écologique de votre système de vente d'occasion?
Alors, on n'en est pas là, mais par contre, il y a aujourd'hui des études qui effectivement montrent que sur les sites, de vente de produits d'occasion, certains produits font des circuits, parfois entre plusieurs pays européens. Avant d'arriver au bon destinataire et que leur empreinte écologique peut être extrêmement lourde. Et donc, l'intérêt des démarches comme les nôtres en proximité, en
magasin.
Voyez, il y a le client le transporte le produit en même temps qu'il vient faire ses courses. Donc, il y a pas d'emballage, c'est le même circuit, il y a pas un camion supplémentaire. Donc, je pense que ce sont des boucles, comme dit local, on l'a déjà dit, qui ont un intérêt par rapport parfois à ces sites qui font des kilomètres sans compter leur consommation, etc. Donc, je pense que notre auditrice a vraiment raison de poser cette question. Je pense que c'est une question de fond à laquelle il faudra répondre à l'avenir.
Dominique Schellcher, Pascal Hébel, est-ce que vous en avez au Crédoc des études sur l'impact écologique de ce marché?
Oui, tout à fait. Donc on a fait des études il y a une dizaine d'années avec l'ADEME, l'Agence de l'énergie, qui fait beaucoup de travaux sur ces sujets. Et c'est vrai que ce sur quoi ça a vraiment un impact, c'est vraiment sur des gros produits, du produit électroménager. Et donc ça, ce qui a été vraiment montré, c'est que plus on fait durer un objet, plus on le répare, et donc une machine à laver, tout le gros électroménager, meilleur c'est pour la planète. Parce qu'en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment la fabrication. Pour une voiture, c'est la même chose.
D'accord, même si j'achète une machine à laver d'occasion en Alsace alors que je suis en Bretagne, ça sera quand même plus vertueux pour l'environnement.
Alors, évidemment, c'est mieux quand c'est local, mais il vaut mieux même faire durer une machine qui est pas économe en électricité. Il vaut mieux la faire durer le plus longtemps possible plutôt que d'en racheter une qui aurait un indicateur écologique plus intéressant en termes de dépenses d'électricité, par exemple, avec une note A sur la note de consommation énergétique. Donc c'est vraiment, il faut surtout ne pas fabriquer trop de biens. Donc c'est d'avoir une durée de vie la plus longue. Donc sur acheter, par exemple, une machine à laver d'occasion, ça, c'est un vrai impact. Après, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des effets rebonds, c'est-à-dire que les gens qui gagnent de l'argent en vendant des objets, ils vont reconsommer. Et donc c'est là où on s'est rendu compte qu'en effet, si cet argent-là est réutilisé pour prendre l'avion et partir très loin, bah évidemment, c'est pas très bon comme impact, donc c'est très mauvais. Mais c'est ce qu'il faut, c'est vraiment partager. Donc il y a des choses. Vous avez raison. Le mieux, c'est de consommer le moins possible. Mais il y a des usages qui sont impératifs, un frigidaire, des choses comme ça, ou certains meubles. Et donc pour ces objets-là, c'est mieux en tous les cas d'acheter de l'occasion plutôt que d'acheter du neuf, ça, dans tous les cas.
Il y a la question de l'impact social aussi. Hein. Jocelyne nous a écrit sur l'application France Inter où elle dit les colis traversent la France et même l'Europe dans des petites camions. Camionnette blanche où le personnel est exploité. Est-ce qu'il y a un indice de l'impact social ?
Alors ça, c'est un petit peu tous les ouvrages qu'il y a eu sur les plateformes comme Amazon, hein, sur l'exploitation c'est des nouveaux métiers qui se créent. En fait, hein, c'est que avant on avait des ouvriers pour fabriquer beaucoup beaucoup d'objets. Aujourd'hui, on a toute la logistique qui ont créé des nouveaux métiers. Et en effet, c'est comme dans beaucoup d'intérimaires, hein, c'est un secteur où on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, hein, les métiers d'intérim ont beaucoup souffert parce que justement il y avait moins d'utilisation et moins d'achats. Donc oui, il y a en effet des nouveaux métiers qui ont été créés et des choses à régler de ce côté-là avec des réglementations et en effet des syndicats qui doivent agir pour que ces métiers-là soient bien encadrés. Mais la logistique a beaucoup progressé, notamment en gérant bien les colis, en fait. Hein. Il y a tout un tas de progrès qui ont été faits avec le nombre de colis qui sont mis dans chaque camionnette, avec on optimise, en fait, les trajets. Et c'est surtout fait sur le volume qui est transporté, où on met le maximum d'objets. Et donc, il y a sans doute encore des progrès, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, c'est pour ça que pour limiter, en effet, le fait d'échanger localement, c'est vraiment la bonne chose. Hein.
Dominique Schelcher, puisque l'émission touche à sa fin, je vais vous demander d'être assez rapide dans votre réponse, mais est-ce qu'il existe effectivement un label qualité environnementale, sociale, ou est-ce que vous avez des pratiques vertueuses, ça, c'est ce que vous nous dites, mais les clients peuvent avoir une preuve de ça ?
Il n'y a pas de label aujourd'hui, et c'est vrai qu'un label, par exemple, sur l'empreinte carbone, très simple à comprendre, est sans doute une piste d'avenir, parce qu'il n'y a pas que le prix facial en face de soi, mais il y a aussi l'impact qu'a eu ce produit dans son circuit, dans sa fabrication, et il faudra qu'on y arrive.
Dominique Schelcher, patron de Système U, merci beaucoup. Pascale Ebel, économiste et directrice du département consommation du Crédoc, merci à vous également. Merci à tous les deux de nous avoir répondu sur France Inter. Grand merci aussi à l'équipe de Choc qui prépare cette émission, Adèle Domas, Pierre de Certaine et Zoé Fauché, ainsi qu'aux standardistes de France Inter. À la technique ce soir, Ronan Mahé et Henri Bérec.